Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous et bonjour à vous, Père José. Nous sommes dans le chapitre 16 et Jésus est en train de développer de façon musicale, quasi symphonique, comme vous plaisez à le souligner, toute une série de thèmes et un des thèmes particuliers, un des thèmes majeurs, c'est certainement l'idée de son départ nécessaire, son absence qui va permettre une nouvelle présence, c'est-à-dire la présence de l'Esprit. Nous allons entrer dans ce chapitre, mais je souligne tout de même quelques expressions, notamment la question qui avait déjà été posée au chapitre 13, « Où vas-tu ?» Voilà une question un peu étonnante, puisqu'elle a déjà été posée. Et puis, Jésus nous dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ». Et puis, il y a tout ce questionnement sur « Encore un peu, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu, et vous me reverrez ». Enfin, nous allons terminer cette lecture par une image magnifique, c'est l'image de la femme qui accouche. Et de nouveau, nous avons un des grands thèmes de ce chapitre, me semble-t-il, c'est l'affliction et la joie. Je vais donc lire le chapitre 16 à partir du verset 4 jusqu'au verset 24. « Je ne vous l'ai pas dit dès le début, car j'étais avec vous. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me pose la question « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, puis encore un peu et vous me verrez. » Certains de ses disciples se dirent alors entre eux, « Qu'a-t-il voulu nous dire ? Encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. » Ou bien encore, « Je vais au Père. Que signifie donc ce « un peu » » disait-il. « Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. » Sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit, « Vous cherchez entre vous le sens de ma parole, encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction puisque son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement, elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Père José, le départ nécessaire, l'affliction et la joie, ce sont vraiment les thèmes principaux de ce passage.
Mais il me semble que Jésus, ici, parle déjà d'un peu plus haut. Et que la question qu'on avait posée au début du chapitre 13 et qui revient maintenant, elle résonne d'une façon différente. Les disciples sentent qu'il est déjà parti, d'une certaine façon, et ils s'en affligent. Et Jésus continue à traduire son départ, cette séparation, cette déchirure nécessaire, à la traduire en positif. Elle devient de plus en plus positive, cette séparation. Il vous est bon que je m'en aille, sinon le réconfort, le paraclet ne viendra pas. Si je pars au contraire, je vous l'enverrai. Dans ce départ, Jésus mêle l'aveuglement du monde. Le fait de ne pas pouvoir comprendre et suivre Jésus dans son départ confond le monde. C'est son péché. Ces versets 8 à 10 sont difficiles à traduire. Ils laissent souvent les exégètes un peu pantois. Donc, l'esprit qui confondra le monde de péché, de justice et de jugement. Le péché, au fond, le seul péché, c'est le refus. C'est le refus, le choix de dire non à la vérité de Jésus.
Ce que vous avez appelé l'esprit fermé dans notre émission précédente.
Tout à fait. Donc, le péché, c'est la fermeture. La justice, qu'est-ce qu'il entend par justice ici ? C'est de ne pas pouvoir reconnaître ce qui est véritablement juste. Parce que le monde ne peut pas suivre Jésus dans le cheminement de la vérité. Et le jugement, finalement, c'est que, au fond, tout est jugé dans l'événement Jésus. C'est un événement décisif qui accomplit le jugement du monde. Le monde est jugé par le drame de Jésus, par l'acceptation ou le refus.
Ici, Jésus apporte davantage de lumière, mais il y a de l'opacité également.
Oui, sûrement. Hein. Dans ce que dit Jésus, qui progresse toujours dans son cheminement, se creuse un fossé de ténèbres. Hein, sûrement. Et d'ailleurs, je crois que Jésus s'en rend compte quand il dit « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous n'êtes plus pas maintenant en état de les porter ». Ça, je trouve, c'est une phrase très importante, parce que Jésus annonce le dépassement nécessaire de sa propre parole immédiate. Ma parole doit éclore en vous, elle doit s'épanouir. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, lui, vous introduira dans la vérité tout entière. Et je trouve que c'est une phrase qui vaut pour nous. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas fini de parler. Et il faut encore tout le temps de l'Esprit pour que sa vérité s'explicite, s'illumine, devienne acceptable.
Au fond, le mot « dépassement » est vraiment quelque chose qui explique, qui sous-tend tout ce discours après la scène.
Tout le discours. Et je crois que ces deux versets justifient ce que nous sommes en train de faire, le travail des théologiens. Jésus annonce lui-même que sa parole doit être dépassée par l'esprit de l'homme ouvert par l'Esprit Saint.
La parole doit être dépassée, dépliée, découverte, et peut-être même inventée à nouveau frais, étant donné le temps qui...
Oui, j'aime bien le mot « découvrir ». qui est la traduction d'inventer, mais découverte. Elle est couverte maintenant. Et nous n'avons pas fini de mettre au jour la parole de Jésus, de l'accoucher. D'où le thème de l'accouchement qui va suivre. Mais le thème de l'accouchement, il est accroché plutôt à celui de la tristesse face à la joie.
Oui, nous allons venir à cet épisode-là, mais finalement, ici, dans ce que vous nous dites, à propos de ce verset, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est un discours trinitaire ?
Fondamentalement, oui, hein, puisque Jésus s'efface pour faire place à l'Esprit qui achève de frayer le chemin vers le Père, sûrement. En ce sens, c'est évidemment trinitaire. C'est vrai que Jésus dit, l'Esprit ne parlera pas de lui-même, il dira ce qu'il aura entendu. Donc il y a le rapport, l'évocation du jeu trinitaire qui se passe dans la révélation de la parole. La parole vient du mystère de Dieu, manifesté par Jésus, mais par, je dirais, la bouche de l'Esprit-Saint.
Oui, dans le verset 14, oui. Il me glorifiera car il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Il y a véritablement toute cette dialectique du fait de recevoir et puis de donner et puis de communiquer.
Et alors, au verset 15, tout ce que possède le Père est à moi. Donc, de nouveau, ce n'est pas une affirmation égoïste. Au contraire, Jésus redit ici que ce qu'il est, il n'est que le reflet du Père. Oui, c'est tout à fait trinitaire. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il recevrait l'Esprit de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Ce jeu du mystère de Dieu qui se donne, il est évoqué ici.
Nous allons faire une pause musicale, Père José, de nouveau avec Haydn, l'opus 76, numéro 2.
Thank you.
Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive du chapitre 16. Nous arrivons à ce passage du chapitre 16 où il est beaucoup question d'affliction et de joie. Et il y a d'abord une petite discussion sur « encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, puis encore un peu et vous me verrez ». Jésus dit cela et les disciples manifestent leur incompréhension. Jésus répond par une belle image, celle de la femme qui enfante. Et ensuite, la fin de ce petit passage débouche sur la prière. Père José, le « encore un peu », c'était une grande préoccupation pour l'époque et notamment pour le rédacteur de l'Évangile de Jean ?
Quoi ? Parce que les premiers disciples sont restés surpris par le départ, la mort de Jésus et puis l'ascension. Ce double départ qui est dans la même logique d'ailleurs. Et la première génération chrétienne attendait un retour presque immédiat du Christ. Et le peu, au fond, c'est notre époque, c'est l'histoire de l'Église, ce peu. Et donc, Jésus n'essaye pas de consoler les disciples un peu de temps et vous me reverrez et je m'en vais au Père. Mon départ et mon retour coïncident avec mon retour là où je suis, de toute éternité dans le sein du Père. Mais l'accès à cette vérité n'est possible de nouveau que dans un grand dépassement, un grand cheminement, une ascension finale. Alors, vous vous demandez ce que veut dire ma phrase « encore un peu de temps et vous ne me reverrez plus »,« encore un peu de temps et vous me reverrez ». En vérité, je vous le dis, vous pleurerez. Ces pleurs, c'est le moment du départ. C'est l'expérience du départ, de la séparation, du mystère de l'absence. Et le monde se réjouira de mon départ apparent. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse va se changer en joie. Donc, et c'est là qu'alors Jésus apporte cette merveilleuse comparaison de la femme qui accouche. Quand une femme enfante, elle est dans la tristesse parce que son heure est venue, et le thème de l'heure est important, mais quand l'enfant est né, elle oublie ses souffrances, toute joyeuse d'avoir mis au monde un homme. Je crois que c'est la première fois que Jésus utilise cette comparaison de l'accouchement. Par contre, elle sera reprise et exploitée par saint Paul. Notre chemin dans la foi est semblable au travail d'un accouchement. Nous ne pouvons pas accéder à la vérité sans accoucher et sans nous accoucher, sans devenir, nous dépasser et devenir un être nouveau. Une vie nouvelle et qui débouche dans la plénitude de la joie. Et cette joie-là, personne ne pourra vous la ravir. Donc ce sera une joie imprenable. Et à ce moment-là, dit-il, vous ne m'interrogerez plus sur rien. C'est l'Esprit seul qui nous éclairera. C'est Jésus-Esprit qui épanouira notre entendement et notre joie.
Donc finalement, nous sommes appelés ici à mettre au monde, certainement, mais également à nous mettre nous-mêmes au monde.
Nous laisser mettre au monde par Dieu, mais nous mettre activement au monde. S'accoucher, c'est la meilleure traduction de la foi.
Certes, c'est un déchirement, mais c'est un plus de vie. Ce n'est donc pas une vie rabotée ou une vie mutilée.
Sûrement pas, au contraire. C'est une vie qui se découvre dans la plénitude. La plénitude de la vie, donc de la joie.
Et comment passe-t-on de cette réussite, de cette vie qui ajoute à la vie, à la prière, la fin de ce que nous avons lu,
oui,
En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite de nouveau.
Je crois qu'ici, Jésus délivre d'une façon définitive notre accès au Père. Désormais, ce n'est plus lui qui est l'intermédiaire nécessaire. Nous sommes par l'Esprit Saint en contact direct avec le Père. Et ce sera tout à fin de la prière de Jésus. À partir d'ici, je vous ai dit ces choses en similitude, mais l'heure vient où je ne parlerai plus en similitude, etc. Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Donc vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire, car le Père, lui aussi, vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde qui m'a refusé. Maintenant, je quitte définitivement le monde et je retourne au Père. C'est comme une première conclusion de ce discours. Puisqu'à partir d'ici, les disciples croient avoir compris, mais Jésus va les détromper une dernière fois en disant « Vous croyez avoir compris, mais vous n'avez encore rien compris. Il faut que j'achève mon cheminement tout seul. »
Nous y reviendrons justement à la fin de ce chapitre. Mais vous dites que finalement, il donne accès au Père et véritablement, il n'y a plus de propriétaire, en quelque sorte, de la vérité, de la vie. Et nous avons ça qui peut s'inscrire au fond de notre cœur.
Ah, tout à fait. Jésus nous a donné tout ce qu'il était, c'est-à-dire la vérité.
Est-ce que ça vous fait penser aussi à ce fameux chapitre 31 de Jérémie, je pense, « J'inscrirai ma loi » ou ma vie, au fond du cœur de l'homme ?
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un vieux thème. Le thème de la joie existe depuis longtemps dans l'histoire du salut.
Eh bien, Père José, nous allons nous quitter là-dessus pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à vous, chers auditeurs, à bientôt. Et je vous laisse de nouveau avec Haydn, l'opus 76, numéro 2. Au revoir, à bientôt. Thank you.